La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Florence Olivier
et Audrey Arsac. Bonjour Audrey.
Bonjour Florence.
Ce mois-ci, le podcast de la Chambre sociale de la Cour de cassation est thématique et porte sur l'intérêt collectif de la profession. Pour en parler, nous recevons Renée Michel-Hotte, conseillère à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour Renée Michel.
Bonjour Florence, bonjour Audrey.
Avec vous Renée Michel, nous allons nous intéresser à une action au régime particulier, l'action ouverte aux syndicats en défense de l'intérêt collectif de la profession. Nous aborderons le périmètre de l'action en défense de l'intérêt collectif, son objet et la réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à cet intérêt collectif.
Commençons par circonscrire la notion d'action en défense de l'intérêt collectif de la profession de manière négative, c'est-à-dire en déterminant ce qu'elle n'est pas. Le droit français, et c'est une de ses originalités, offre aux syndicats un large panel d'actions. Renée Michel, pouvez-vous tout d'abord nous dresser un bref inventaire de ces actions qui se distinguent de l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession ?
Un syndicat, comme toute personne morale, dispose en premier lieu d'une action dans son intérêt propre. Mais, outre cette action, qui ne présente pas de spécificité, le législateur a reconnu aux organisations syndicales la possibilité d'agir dans l'intérêt personnel des salariés. Cette action, dite de substitution, permet au syndicat d'agir au nom d'un salarié, sans avoir besoin d'un mandat express de sa part, mais à la condition que ce salarié ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le dispositif est dérogatoire au droit commun, et à ce titre, il n'est ouvert au syndicat que dans des domaines limitativement énumérés. Emploi des étrangers, prêt de main-d'œuvre illicite, travail temporaire, salariés détachés, travail dissimulé, marchandage, groupement d'employeurs, travailleurs à domicile, travailleurs en contrat à durée déterminée, licenciement pour motif économique, égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, discrimination et harcèlement. Dans ces situations, le salarié présente une particulière vulnérabilité et l'on peut craindre qu'il ait une connaissance insuffisante de ses droits ou qu'il hésite à les exercer par crainte de représailles.
Au-delà de l'action dans l'intérêt propre du syndicat, il existe également une action de groupe.
En effet, plus récemment, le législateur a créé l'action de groupe dans certains domaines, notamment en matière de discrimination dans les relations relevant du droit du travail. Elle doit permettre aux organisations syndicales représentatives d'établir l'existence d'une discrimination que des auteurs qualifient de systémique et d'en obtenir la cessation ainsi que la réparation des préjudices subis par les salariés. Et le domaine de l'action de groupe vient d'être étendu par la loi du 30 avril 2025.
L'action en défense de l'intérêt collectif de la profession se distingue des actions que vous venez d'évoquer. Mais comment est-elle apparue ?
Historiquement, c'est la plus ancienne. Elle a été reconnue par la jurisprudence dès le début du XXe siècle avant d'être consacrée par la loi du 12 mars 1920. La formulation actuelle de l'article L 2132-3 est quasiment la même que celle du texte initial. Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. C'est l'action qui est aujourd'hui privilégiée par les syndicats du fait de son caractère très général. Elle est devenue un levier essentiel de l'action syndicale.
Comment la loi définit-elle l'intérêt collectif de la profession ?
Le législateur n'a jamais défini ce que recouvrait l'intérêt collectif de la profession. La Cour de cassation a donc été amenée, au fil des dossiers, à déterminer dans quelle situation était en jeu un tel intérêt. La difficulté est évidemment que la frontière est difficile à tracer entre les situations dans lesquelles seul l'intérêt individuel d'un salarié est affecté et celles où l'atteinte qui est portée transcende son intérêt et touche au-delà de ce salarié toute ou partie d'une communauté de travail. Par ailleurs, l'intérêt collectif de la profession ne doit pas davantage être confondu avec l'intérêt général dont il n'appartient pas à un syndicat d'être garant. On voit là toute la difficulté qu'il y a à cerner la notion.
À quel stade de son raisonnement le juge doit-il apprécier si l'intérêt collectif de la profession est en jeu ?
Il convient de distinguer la question de la recevabilité de l'action de celle de son bien fondé, qui correspondent à deux stades différents du raisonnement des juges du fond. La question de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession va y être examinée sous des prismes distincts. Ainsi, le juge doit d'abord vérifier que les faits litigieux sont de nature à porter atteinte directement ou indirectement à l'intérêt collectif de la profession pour vérifier la recevabilité même de l'action du syndicat. La réalité de cette atteinte, elle, sera examinée ensuite pour apprécier le bien fondé de l'action.
Dans quel type de situation le juge doit-il considérer que les faits litigieux sont de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession ?
Il n'est pas aisé de dresser une liste des irrégularités qui, par leur nature, affectent, au-delà de la situation du seul salarié, la communauté de travail dès lors que, comme je l'indiquais, les décisions ont été rendues de manière éparse. La Cour de cassation a cependant récemment engagé une réflexion sur cette thématique et a identifié quatre champs dans lesquels est reconnue l'existence d'un intérêt collectif de la profession, rendant recevable la demande d'une organisation syndicale en réparation de l'atteinte qui lui est portée.
Le premier de ces champs est la violation par l'employeur de dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.
Absolument, Audrey. Il s'agit là du domaine naturel de l'intérêt collectif de la profession, puisque les dispositions conventionnelles concernent un cercle déterminé de travailleurs liés par l'identité du statut collectif dont ils relèvent. Peu importe dès lors que le syndicat auteur de l'action ne soit pas signataire de la convention ou que la convention ne soit pas étendue. En outre, la Cour de cassation reconnaît qu'est également en cause l'intérêt collectif quand c'est un engagement unilatéral de l'employeur qui n'est pas respecté ou quand il y a violation du statut du personnel dans l'hypothèse particulière des entreprises à statut.
Le deuxième domaine est celui de l'atteinte aux droits des salariés protégés à raison de leur statut.
En effet, Florence, comme le juge de façon constante la Cour de cassation, les salariés titulaires d'un mandat électif ou syndical bénéficient d'une protection qui est instaurée non dans leur intérêt propre, mais dans celui de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Par conséquent, toute atteinte au statut d'un salarié protégé affecte l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Qu'en est-il de l'hypothèse particulière du harcèlement moral exercé contre un salarié protégé ?
La Cour de cassation a statué récemment sur cette question. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, elle a considéré que dans une telle hypothèse, le syndicat était recevable en son action à la condition que les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif, comme laissant supposer un harcèlement moral, soient en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié.
Le troisième champ est celui du recours irrégulier au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée. Ne peut-on voir dans ce domaine une influence européenne ?
En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a posé, dans la ligne de la directive du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, le principe selon lequel la forme normale du travail doit être le contrat à durée indéterminée. Cette règle est reprise à l'article L1221-2 du Code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. La légalité de la structure de l'emploi est un impératif de portée telle que la Chambre sociale a reconnu l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y compris dans l'hypothèse de simples irrégularités formelles. Ainsi, quand l'employeur s'affranchit des limites légales encadrant le recours au contrat à durée déterminée ou au travail temporaire, c'est la possibilité d'embauche de travailleurs permanents qui s'en trouve diminuée.
La Cour de cassation juge enfin qu'est en cause l'intérêt collectif de la profession quand sont violées des dispositions légales affectant une catégorie ou une pluralité de salariés.
Oui, dès lors que la règle violée tend à protéger une catégorie ou une pluralité de salariés, l'intérêt en cause dépasse l'intérêt individuel pour présenter un caractère collectif. Il ne présente pas pour autant un caractère universel. La Cour de cassation juge ainsi qu'est en cause l'intérêt collectif de la profession en cas de violation des règles relatives au repos dominical, au repos compensateur, au paiement des heures supplémentaires pour les salariés relevant d'une modalité spécifique du forfait horaire, au transfert des contrats de travail en application de l'article L 1224-1 du Code du travail et au principe d'égalité de traitement, pour ne donner que quelques exemples. A contrario, lorsque le litige ne concerne que l'intérêt individuel du salarié, la Cour de cassation juge que n'est pas en cause l'intérêt collectif de la profession. C'est le cas, par exemple, de la qualification de faute grave des faits invoqués pour justifier le licenciement d'un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, du litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ou encore d'une discrimination relative à l'état de santé du salarié.
L'existence d'un intérêt collectif de la profession permet donc d'identifier les domaines dans lesquels le syndicat peut agir. Examinons à présent l'objet de l'action du syndicat et tentons de le circonscrire puis de déterminer les préjudices dont le syndicat peut demander la réparation.
Dès lors que la raison d'être de l'action du syndicat est la défense d'un intérêt collectif, cette action ne peut tendre qu'à un objet collectif. Au fil des années, la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence sur ce qu'un syndicat était recevable à solliciter sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du travail. En effet, il n'est pas rare que les organisations syndicales qui invoquent un manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles ou légales demandent que soient régularisées les situations individuelles des salariés.
On peut dire à titre de synthèse que le but de l'action du syndicat doit se limiter à un retour à la légalité collective.
Oui, et cette solution vient achever une construction jurisprudentielle entamée au cours des années 2000. Par deux arrêts publiés du 23 novembre 2023, sur lesquels je ne reviendrai pas en détail puisqu'ils avaient été étudiés dans le podcast numéro 23, la Chambre sociale a ainsi jugé qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ou au regard du principe d'égalité de traitement. Il peut demander, outre l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Mais il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, car une telle action relève de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Cette solution est commandée par des raisons procédurales.
Tout à fait. Toute action du syndicat impliquant pour le juge de devoir recalculer, salarié par salarié, les créances individuelles de ceux-ci se heurterait au principe de la contradiction posée par l'article 16 du Code de procédure civile. En effet, les droits individuels des salariés ne sauraient être débattus sans que leur titulaire en ait été avisé et mis en mesure d'en discuter. Par ailleurs, l'effet relatif du jugement s'oppose également à ce qu'un syndicat puisse solliciter des régularisations individuelles, puisqu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni partis ni représentés dans la cause. Enfin, l'exclusivité de compétences du Conseil de prud'homme, prévue par l'article L1411-1 du Code du travail, serait susceptible d'être mise en cause si les situations individuelles des salariés étaient portées devant le tribunal judiciaire dans le cadre de litiges collectifs.
À ces raisons de nature procédurale s'ajoute également une raison de fond.
En effet, la confusion des actions collectives et individuelles serait de nature à porter atteinte à la liberté personnelle des salariés concernés et à leur droit d'agir, droit constitutionnellement garanti. Si la liberté personnelle, conçue comme un droit propre à l'individu, n'est inscrite dans aucun texte, elle a été cependant utilisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1989 concernant une loi relative à la prévention du licenciement économique. Le juge constitutionnel y précise que les modalités de mise en œuvre des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié. Ce principe constitue ainsi une limite à la liberté syndicale et a, comme elle, valeur constitutionnelle. Ainsi, au titre de l'intérêt collectif de la profession, le syndicat peut obtenir, pour l'avenir, qu'il soit ordonné à l'employeur de se conformer aux règles légales, aux stipulations d'un accord collectif ou aux principes d'égalité de traitement. En revanche, une condamnation à une régularisation individuelle ne pourra intervenir qu'à l'initiative procédurale du salarié concerné.
Outre ce retour à la légalité collective, le syndicat est également fondé à demander une indemnisation lorsqu'une atteinte est portée à l'intérêt collectif de la profession. Ce n'est pourtant pas son intérêt à lui qui est affecté.
Il est vrai que cette possibilité, ouverte au syndicat, est dérogatoire au droit commun de la responsabilité. Par principe, en effet, seule la personne qui subit le dommage peut en obtenir réparation. Or, ce n'est effectivement pas son préjudice dont le syndicat sollicite l'indemnisation, mais celui subi par une communauté de travail. Est également dérogatoire la possibilité offerte par le texte que soit indemnisé le préjudice, même indirect, porté à l'intérêt collectif de la profession. On le voit, l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession a un régime particulier.
L'intérêt collectif est difficile à définir. N'est-il pas tout aussi difficile, dès lors, de cerner le préjudice causé par l'atteinte portée à cet intérêt ?
Il est effectivement très difficile de conceptualiser le préjudice causé par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, notamment parce qu'il est subi par une communauté de travail, entité imprécise, dépourvue de la personnalité juridique. Et le fait qu'il soit de nature morale ne simplifie pas sa détermination.
La question est encore complexifiée par les spécificités de la réparation du préjudice en droit du travail.
Absolument. Des débats portent déjà sur la finalité de la responsabilité civile. Au-delà de la réparation du préjudice subi, devrait-elle avoir une fonction de sanction, dissuasive ? Ces débats sont encore plus vifs en droit du travail. En effet, les auteurs relèvent que, au-delà de sa fonction réparatrice, la responsabilité en droit du travail peut être conçue comme tendant à sanctionner des comportements des employeurs, à prévenir des dommages futurs ou réitérés, à faire cesser des manquements, tout ceci dans une recherche de compromis entre les droits des victimes et la protection des intérêts des entreprises.
Au-delà des spécificités que vous venez de nous décrire, comment les juges du fond doivent-ils apprécier ce préjudice ?
En premier lieu, il faut indiquer que l'évaluation de ce préjudice, comme celle de tout préjudice, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sous les réserves suivantes. Tout d'abord, les juges du fond ne doivent pas commettre de confusion entre les préjudices subis individuellement par les salariés et le préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat ne peut pas, par exemple, prétendre à la rémunération des heures de travail dont les salariés ont été privés. La Cour de cassation exclut par ailleurs le principe d'une réparation symbolique. En outre, en cas de pluralité de manquements de l'employeur à un même type d'obligation, il appartient au juge du fond de faire une appréciation globale du préjudice afin d'éviter que soit réparé plusieurs fois un même dommage. Ces quelques principes n'enlèvent rien à la difficulté d'évaluer ce préjudice, tant il est délicat de chiffrer les effets d'un trouble social.
C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités dans ce podcast thématique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci René Michel, merci Audrey.
Merci à vous.
À bientôt.